citoyen du royaume de Dieu. Vous savez, moi j'ai deux passeports et bientôt je vais me faire un troisième, un plus neutre. J'ai la possibilité, à travers toutes mes racines, d'avoir un troisième passeport. C'est mon premier passeport, voilà. Et des Belges, mais aussi des Coréens. Comme ça, mesdames. Et de savoir que notre royaume est un royaume international. Nous sommes la foi la plus ancienne du monde. Nous sommes la foi la plus ancienne du monde et la plus internationale du monde. Notre foi ne commence pas par Matthieu chapitre 2, mais par la Genèse au chapitre 1, verset 1. Si vous voulez savoir le plan de Dieu pour l'humanité, tout se trouve dans le premier verset. C'est déjà « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et il y a un petit mot qui on fait pas souvent attention, c'est le mot « et ». Les cieux et la terre. Il est le Dieu des cieux, mais il est le Dieu aussi de la terre. Et le plan de Dieu, c'est toujours de réconcilier tout ce qu'il a créé. Et c'est le travail de Jésus d'être le pont entre le ciel et la terre. De réconcilier tout ce qu'il y a sur le ciel et le mettre sur la terre, et tout ce qu'il y a sur la terre et le mettre au ciel. Et c'est le plan du royaume de Dieu. Nous sommes appelés à être sur terre pour apporter le ciel sur terre et la terre dans le ciel. C'est le plan de Dieu pour nous. Et j'ai un message, le Seigneur m'a donné un message pour vous. Ça s'appelle le Nouveau Moyen-Orient, pour vous parler ce que Dieu fait au Moyen-Orient pour vous encourager. Parce que à travers les difficultés dans lesquelles vous êtes passés ici en France, peut-être il y en a qui baissent les bras et qui disent comment on va faire pour s'en sortir. Mais simplement pour vous dire, l'ennemi a peut-être gagné une bataille, mais il ne va pas gagner la guerre, parce que Jésus est vainqueur. Amen. Et Jésus est victorieux. Amen. Et justement, avec ces paroles qu'on a entendues, il faut résister, il faut être fort. C'est le moment d'avoir les regards tournés vers le Seigneur, de savoir le plan de Dieu stratégique. Qu'est-ce qu'il veut faire, le Seigneur, dans ce monde? Alors, on va diviser le temps qui m'est imparti en trois. Je vais d'abord vous montrer des photos, parce que ici, j'ai mes cousins et mes cousines, vous savez. Moi, j'ai la famille ici. Hein? Et donc, je vais montrer quelques photos. Et la photo de notre famille, de notre ministère, et ce que Dieu fait en Israël, dans notre communauté qui s'appelle Amayan, c'est-à-dire la source, à Kfar Saba. Kfar Saba, c'est la vallée du Saron. C'est à 1 heure de Jérusalem, 1 heure de Haïfa, 1 demi-heure de Tel Aviv. C'est vraiment le centre. On est juste au pied de la Samarie, ce qu'on appelle les territoires occupés, et donc juste devant la ville musulmane de Kalkilia, 2 kilomètres. Et donc on est au centre de l'action, et puis il y a beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qui est déjà venu à Kfar Saba? Levez les mains, voilà. Ah ben voilà, voilà. Alors on est à la maison, hein, voilà, la maison. Voilà, on va montrer quelques photos. Est-ce qu'on va montrer les photos? Voilà. Alors, je vous présente ma femme Orna. Ça fait déjà 35 ans que nous sommes mariés. Voilà, Orna est née en Israël et on travaille ensemble dans le ministère. Voilà. Allez, on va passer les autres photos. Voilà, je vous présente mes 4 enfants. Alors, Dana, qui est en noir ici, elle a 32 ans. Dan a 32 ans, il y a elle a marié un enfant, marié une petite fille qui s'appelle Rio, et il y a elle, à 30 ans, elle est encore célibataire, mon fils Lior, 27 ans, marié, un chien, et notre petite fille, 20 ans, elle va avoir 20 ans, là quand je reviens on va fêter ses 20 ans, et elle est au service militaire, elle est à l'armée. Voilà, nos 4 enfants, ils habitent tous en Israël. Voilà, on va passer. Voilà, notre soldate. Vous savez que tous les Israéliens font le service militaire à l'âge de 18 ans. 2 ans pour les filles et 3 ans pour les hommes. Voilà, donc elle va terminer en août, là. Et il faut prier pour elle. Elle a les genoux un petit peu... on porte beaucoup de choses, et donc il faut prier pour ses genoux. Voilà, on va passer. Je vous présente Rio, le plus beau bébé qu'il y a dans le monde. C'est une petite fille qui s'appelle Rio, ça veut dire rivière en espagnol. Et je suis sûr que vous avez dit, non, c'est pas vrai, moi j'ai le petit bébé. Mais on me l'avait dit, moi, avant que j'étais grand-parent, grand-père, on m'avait dit, une fois que tu vas être grand-père, tu vas devenir un gaga, un gâteux. Mais en fait, on a tous les privilèges, on n'a aucune responsabilité, c'est super. Hein? Amen? Ok. Allez, on passe. 4 générations. Alors, je vous présente la mère de Orna, la mère de Orna qui est née ce qu'on appelle la Moldova, c'est-à-dire c'était roumain-russe, il parlait, elle parle 7 langues. Elle parle 7 langues et bon, elle a beaucoup souffert pendant la guerre, elle peut écrire tout un livre, ils ont dû s'enfuir, persécuter, chasser, mais ça c'est l'histoire d'Israël en fait. Et donc il y a 4 générations ici représentées, ici la bénédiction, voilà. Et elle parle français aussi très bien, elle a étudié à la Sorbonne, à Paris, attention, aux Beaux-Arts, etc. On continue. Voilà. Un bonjour d'Israël. Vous voyez comment je suis devenu gâteux, là. Il y a deux photos de bébé là avec moi. Allez, on passe. Alors, voilà, ça c'est notre... je dirais orgueil, mais je veux pas être, on n'est pas orgueilleux, mais on est fier. On est fier parce qu'on a les enfants, on a les jeunes, c'est les adolescents, et c'est ce groupe de jeunes. Je dis pas c'est notre futur, je dis c'est notre présent, parce que c'est eux qui sont en fait investis. Et c'est toujours, il n'y a pas de succès sans successeur. Il faut toujours trouver, eh bien, la nouvelle génération est ici dans ces jeunes que on a un groupe de jeunes qui se développe. Et vous allez voir, on va vous montrer un petit vidéo de ce qu'ils font, comment ils sont volontaires ici. Ça, c'est notre assemblée. On va passer. Alors, je vous présente notre nouveau groupe de louanges. C'est israélo-chinois. Voilà, israélo-chinois. Voilà. Parce que on a des conférences avec les Chinois. Le Seigneur a ouvert une porte avec la Chine populaire, où on est très très investi dans les églises qu'on appelle les églises de famille. C'est les églises souterraines. Et donc, j'étais plusieurs fois en Chine. Je prends des jeunes avec moi, des jeunes, mais jeunes adultes, hein, après le service militaire, entre 21 et 30 ans. Et il y a un groupe qui s'est fait. C'est des chants, en fait, c'est des chants qu'on a écrits, que j'ai écrits, qui sont en hébreu, qui ont été traduits en chinois. On fait un album là qui s'appelle Shalom Chine. Et donc, on avait un groupe ensemble, et donc on joue dans les conférences à Jérusalem, etc., ensemble. Voilà, alors ça, c'est un projet aussi que vous pouvez prier, parce que Dieu est en train de vraiment construire des clés. Cette personne qui se trouve là, c'est un des 5 pères de l'Église. Il a été des années en prison, il a souffert pour sa foi, il est très connu en Chine, et c'était la première fois qu'il était à Jérusalem, en Israël, et on a pu vraiment... Voilà, c'est très très spécial ce qui se passe en Chine. Dieu est en train d'agir en Chine. Il y a plus de 100 millions de chrétiens nouveau-nés, et ça grandit de plus en plus. Et c'est incroyable, c'est la façon dont Dieu agit en Chine. Voilà, je vous passe. Voilà, alors c'est notre groupe de louanges. Voilà, on passe. Alors voilà. Alors là, c'est ce qui s'est passé, c'est que quand on a eu un mouvement de réconciliation avec les nations, donc il y a eu, on a lavé les pieds des nations qui ont demandé pardon à Israël pour la façon dont les nations, les gouvernements ont tué les Juifs, déporté, etc. Donc il y avait plusieurs nations là, et donc tout de suite, nous, on a senti, ben, c'est à nous aussi de nous humilier. Et donc, on s'est lavé les pieds les uns des autres. Voilà, je vais montrer ce qui se passe dans notre assemblée de temps en temps. Hein. On passe. Voilà, je vous présente notre nouvelle église indien, Sri Lankais. Ça s'appelle India Lanka Ministries. C'est à Tel Aviv. Et ça a commencé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il y avait une sœur de notre assemblée qui a rencontré une indienne, une femme qui travaille. Ce sont tous des gens qui travaillent en Israël. Hein, ils travaillent parmi les personnes âgées. Et donc, cette femme, elle avait beaucoup de besoins, beaucoup de problèmes. Et notre sœur a dit, eh bien, écoute, viens, je vais t'expliquer comment tu peux sortir de tes problèmes. Et elle lui a annoncé l'évangile. Et cette sœur est venue au Seigneur. Et elle a amené une autre amie. Oh, ma vie a changé. Alors elle a amené son amie est venue et elle a reçu aussi le Seigneur. Et ensuite on a rencontré une femme du Sri Lanka qui était déjà croyante et elle a rencontré ces deux femmes indiennes. Elle était très contente et elle a ramené une amie non croyante. On a commencé à 5 personnes il y a 2 ans. Et maintenant, voilà, c'est notre. Alors maintenant, étant donné que stratégiquement, c'est plus facile d'être à Tel Aviv parce que c'est les bus, etc. Donc, c'est une nouvelle église qui nous est tombée dessus, quoi. En fait, faut dire parce que la plupart sont des jeunes croyants. Je les ai baptisés moi-même. Sri Lanka, Indien, Inde. Et le langage qui nous met ensemble, c'est l'anglais, bien sûr. Alors maintenant, commence à venir déjà des Népalais. Des Philippins, voilà, donc ça veut venir un southeast, un truc sud-est hein, du monde, voilà. Alors je vous demande de prier pour ça, pour ce ministère, et en fait, eux, ils n'habitent pas tout le temps en Israël, donc ils sont entre 5 et 7 ans, en fait. Donc qu'est-ce que c'est? Alors c'est les amener au Seigneur, en faire des disciples, et en faire devenir des leaders. Alors ceux du Sri Lanka, ils vont aller dans une église à Colombo avec qui on a des relations, on a un partnership avec les gens du Sri Lanka. Et ceux de l'Inde, leur rêve c'est d'implanter des églises. Et donc on a déjà deux couples qui se préparent pour partir dans 2 ans et implanter une église, une à Mumbai et une à Mangalore. Et tout d'un coup, la révélation du Seigneur, mais c'est l'appel des juifs croyant en Jésus. C'est ce que Paul faisait. Implantation d'églises parmi les nations. L'appel d'Israël, c'est d'être la lumière parmi les nations. Et tout d'un coup, c'était, waouh, Seigneur, tu as couvert la boucle là. De Sion sortira la loi et la parole du Seigneur de Jérusalem. Et donc voilà, ça c'est ce que je vous montrais pour vous encourager que Dieu... Il est en train de travailler parmi les Indiens, parmi les Chinois, parmi les Sri Lankais. C'est incroyable. Une ouverture fantastique. Si vous avez des Indiens ici, des Sri Lankais, je vous recommande, allez les voir. Vous allez voir, la nourriture est super. On continue. Alors, ça c'est une autre fierté. Ça s'appelle Kingdom First. C'est un ministère entre Juifs et Arabes. Ça se trouve sur la mer Morte. On a passé des temps... d'adoration, de louange, de prière les uns pour les autres. Qui était cette année à Jéricho? Vous étiez à Jéricho? Est-ce que vous avez été à Bethléem, à Jéricho, à Nazareth? On a rencontré des frères, hein, et donc on a une conférence ensemble où c'est le royaume de Dieu d'abord. Le royaume de Dieu d'abord, c'est-à-dire, on fait pas de politique, on n'essaye pas d'en faire, hein, c'est pas toujours facile. Ils sont pas toujours d'accord avec nous sur la façon dont ils voient Israël. C'est souvent, ils sont influencés par la théologie de remplacement, vous savez, cette théologie qui dit que l'Église est Israël. C'est une fausse théologie, mais ça prend du temps jusqu'à changer les mentalités. Hein. Mais nous, on dit, en tout cas, le plus important pour nous, c'est l'Évangile. Le plus important pour nous, c'est de voir des Juifs venir à Jésus et des musulmans venir à Jésus. Et donc, on a un pacte entre nous. Voilà. On prie les uns pour les autres et la force, c'est de voir juifs et arabes ensemble témoigner de l'amour de Dieu. Alors là, ils sont complètement, les gens, ils sont scotchés de tout. Mais juifs, musulmans, arabes, chrétiens, mais qu'est-ce que vous êtes? Quelle religion vous êtes? Nous, on n'est pas la religion, nous. Nous, c'est le royaume de Dieu. C'est la famille de Dieu. Et ça bouge tout. Et je crois que c'est très important pour nous de savoir qu'on ne peut pas se polariser. Si on aime Israël, on est obligé d'aimer les Arabes. Et si on aime les Arabes, on est obligé d'aimer Israël. Ça, c'est le royaume de Dieu, le vrai royaume de Dieu. Nous, on ne fait pas du racisme, on ne fait pas du sectaire. Hein? On aime nos ennemis et on bénit ceux qui nous maudissent. Nos armes sont plus puissantes que les kalachnikovs, ça c'est sûr. Hein? Nos armes sont les armes de la prière, de la parole de Dieu. La vérité va renverser les mensonges. Et pourquoi il y a les ténèbres qui viennent? C'est parce que la lumière a été éteinte, simplement. et rallumez la lumière, vous verrez, les ténèbres vont partir. Hein, où est-ce qu'elle se trouve, la lumière ? Jésus a dit « Je suis la lumière du monde » et il a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Alors, on s'attend toujours au gouvernement, à la police, à l'armée, aux journalistes, mais le Seigneur nous regarde, nous, et il dit « C'est à vous d'allumer la lumière. C'est à vous d'ouvrir votre bouche, de sortir et de témoigner que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité. Ce qu'on a vécu ici ce matin, eh ben, on peut le vivre sur les marchés, un peu partout, dans tous les villages. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Allez, chiche, pourquoi pas ? Hein ? Il n'est pas encore trop tard, mais ça commence à faire noir. Il faut y aller. Mais si vous y allez, n'y allez pas tout seul. Allez en groupe. Amen ? C'est encore possible. On continue ? Voilà, ça c'est la conférence francophone de l'année passée. Il y a 2 ans, on n'a pas réussi à monter, on a attendu 1h30. Hein, c'est vrai, hein? Et puis on est juste arrivé à la porte et on a été refoulé, il fallait aller. Et là, on est monté sur le mont du Temple, on s'est assis. Prière, intercession, alors ça c'est une conférence francophone du 18 octobre au 26 octobre. Vous allez noter ça et vous allez venir, si vous voulez. Hein, on ne va pas vous forcer, vous avez le libre choix. Et on prie dans les endroits stratégiques. Et là, on a monté sur le mont du Temple, et c'était très, 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 très fort. 4 jours plus tard, il y avait les incidents sur le mont du Temple. 4 jours plus tard, on avait les incidents où il y a eu les émeutes, etc. Et donc, c'est très important pour nous de réaliser l'enjeu spirituel qu'il y a de prier dans ces endroits-là. C'est une conférence pour les gens qui parlent français, c'est-à-dire c'est la seule conférence, en fait, qu'il y a pour toute la francophonie. Alors les gens viennent de Belgique, de Suisse, de France, de Afrique, Nouvelle-Calédonie, etc. On passe. Voilà. Alors ça c'est ça. Là c'est cette année on va faire la Samarie, on va aller à Shiloh, on va aller à Mont-Gérizim, on va aller à Hébron, on va faire aussi tout le sud du pays, Elat, Sderot, etc. On passe. Alors ici ça c'est ceux qui connaissent le bâtiment de notre assemblée, c'est le sous-sol de notre assemblée. Et ce qui s'est passé, ça va aller avec le petit bébé ? Ouais, ça va ? Je suis désolé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la dernière guerre qui s'est passée avec le Hamas cet été. Vous savez qu'Israël, depuis 1948, a passé déjà plus de 10 guerres. Et la dernière guerre, c'était cet été, 50 jours. Avec le Hamas. Et le Hamas, c'est une organisation terroriste qui a contrôlé complètement la bande de Gaza et qui a envoyé des missiles. Alors, ils se sont approvisionnés parce que, à une certaine époque, l'Égypte était amie avec eux, les frères musulmans. Et donc, à travers les tunnels, ils ont amené des milliers, des dizaines de milliers de missiles qui viennent à la fois de l'Iran et de la Russie. Et donc, il y avait des missiles à longue portée et à petite portée. 4000 missiles ont été envoyés pendant 50 jours en Israël. Alors, quand un missile est envoyé, c'est une sirène. Et vous avez entre 30 secondes et 1 minute et demie pour trouver un abri. Et donc, nous, à Kfar Saba, les missiles sont tombés. Eh bien, on a des antimissiles qui s'appellent le dôme de fer. Ça marche pas mal. C'est déjà 90%. Les missiles ont pu être détruits, mais il y en a qui sont tombés malheureusement et qui ont détruit énormément de maisons. Mais on ne sait jamais ce qui se passe. Et nous, on s'est retrouvés dans notre assemblée, hein, avec les missiles qui sont tombés. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on cherche les abris et on a une petite pièce. Vous savez, en Israël, toutes les maisons qui ont été construites après 1991, la guerre du Golfe, ont une petite pièce anti-bombe. Et donc, on a mis les gens, les personnes de plus de 65 ans, on avait juste 10 personnes, plus de 65 ans, on a dit, ben vous allez vous réfugier là, et puis nous, on va aller en bas. Et en bas, il y avait un garage qui était abandonné, on a été voir le propriétaire nous a donné les clés, et on a fait rentrer les gens pour se protéger en dessous. Et maintenant, on est en pourparlers pour acheter ce sous-sol, ce garage, qu'on va transformer et en faire un abri souterrain. Et cet abri souterrain va être aux normes avec un filtre pour de l'air, l'eau, les toilettes, des lits, etc. pour 200 personnes. Et donc avec la municipalité, voilà. Donc c'est un très grand projet. Et entre les deux guerres, ce sera pour les jeunes. Ce sera le club des jeunes, hein, parce que. Et c'est un projet que je vous demande de prier. Bien sûr, dans la lettre de nouvelles, ceux qui le connaissent, on est presque arrivé. Il nous manque encore 40 000 euros. Et par la grâce de Dieu, ça va venir. Et voilà. Donc, on va continuer. Je vais vous montrer encore des photos. Voilà. Ça, c'est l'abri souterrain. On rentre par là. Et la porte, il y a une porte qui s'ouvre là. Donc, ça va être une porte qui va être blindée. On peut continuer avec, voilà. Alors, ça, c'était, comment on l'a récupéré avec les escaliers. C'était très sale, c'était très mal. Vas-y, tu peux passer encore. Voilà. Encore, vas-y. Voilà. Moi, je crois que c'est tout. Hein. Oui, c'est très grand. C'est très grand, voilà. C'est pour 200 personnes. Alors, il y a des chambres. Il y a des chambres sur le côté. Et puis, il va y avoir des toilettes et des douches, des lits qui vont être mis aussi pour les premiers soins. Tu peux continuer ? Alors voilà, alors ça c'est, je crois, est-ce que c'est ça la vidéo ? Il n'y a rien. Bon, alors tu nous mets la vidéo, la petite vidéo, le deuxième truc. Alors ce qui est très intéressant, c'est que quand nous, cet l'été, quand on était sous les missiles, on avait sur le cœur d'aller à Sderot. On a des amis à Sderot. Vous vous souvenez les amis à Sderot ? On a été les voir. Juste pendant la guerre, on était la seule voiture sur la route. Et tout d'un coup, il y avait le coucher de soleil, un beau coucher de soleil, et deux nuages noirs. Un tout petit nuage noir et un gros nuage noir. Et le petit nuage noir, le Seigneur me disait, tu vois ce petit nuage noir, c'est la guerre que tu te trouves en ce moment avec le Hamas. Les 4000 missiles là qui tombent, c'est un petit nuage. Mais il va y avoir une prochaine guerre qui va commencer du nord et elle sera beaucoup plus grande. Et pour cette guerre, tu dois te préparer. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai l'urgence. Ça bouille en moi l'urgence. Il faut absolument qu'on ait cet abri souterrain parce qu'il va venir une guerre. Et je vais vous expliquer un peu dans le message aussi tout ce qui se passe au nord du pays. Hein, donc nous, on se prépare. Et nous, en tant qu'Israéliens, on n'a pas la théologie eschatologique. On pense pas au futur. Nous, c'est au jour le jour. On est de crise en crise, tu vois. Fermer les fins de mois, arriver à trouver du travail. On pense pas au futur. Alors que dans la parole de Dieu, il est dit le futur qui va se passer sur Israël, sur Gog et Magog, etc. Donc, tout d'un coup, on a cette réalisation. Il faut se préparer pour le futur. Voilà. Alors, on a dit aux jeunes, voilà, on est en train d'acheter cet abri. Ça va être votre club. Alors eux, ils ont retroussé leurs manches. Et voilà, on va vous montrer un petit peu ce vidéo. Bon, alors je vais vous expliquer ce qu'ils font. Ils sont en train de nettoyer. Ouais. Bon, écoutez, on va passer. Hein, on va commencer avec le message. Et puis à la fin, peut-être vous allez le voir si on a encore un peu de temps. D'accord ? Voilà, je vais commencer l'enseignement. Hein ? Il est prêt ? Vas-y alors, vas-y.
Laisse tomber. On fait le PowerPoint, d'accord ?
Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 137, versets 5 et 6. On va parler un petit peu d'actualité. Quand on parle d'actualité, on parle de choses qui sont en train de se passer, des choses qui vont aussi se passer dans la parole de Dieu. Je crois que c'est important de savoir que Dieu est un Dieu de prophétie, c'est-à-dire un Dieu qui parle. Un Dieu qui parle et souvent avant son temps. Il y a des choses qu'il a déclarées avant la venue de ces événements. Par exemple, la venue de notre Seigneur a été prophétisée déjà depuis la Genèse, chapitre 3, verset 15, déjà à la création des temps, dans le livre de Ésaïe, Michée, etc. Donc 600, 700 ans avant, c'était toujours la prophétie et dans les choses qui se sont passées. Il y a des prophéties qui se sont passées, qui sont déjà venues à terme. Il y a des prophéties qui ne sont pas encore arrivées à terme. Et donc là, on va étudier peut-être ce que Dieu réserve pour ce Moyen-Orient et pourquoi le Moyen-Orient, c'est tellement loin, c'est à 4000 kilomètres d'ici. Parce que, vous savez, Dieu se déclare toujours, se révèle toujours comme le Dieu des armées. Est-ce que vous avez jamais étonné ça? Adonai Tsevaot, le Dieu des armées. Mais c'est quoi le Dieu des armées? Nous, on est appelés à faire la paix, non? Mais Jésus, il a dit, je suis pas venu amener la paix. C'est dans l'évangile. Je ne suis pas venu amener la paix, je suis venu amener quoi? La division, l'épée. Séparer toute l'humanité en deux. Ceux qui croient en lui, ceux qui ne croient pas en lui. C'est bizarre. Moi, je croyais que Jésus, il était pour la réconciliation. Oui, la réconciliation, mais la réconciliation en lui. La réconciliation en lui. C'est-à-dire que la réconciliation qu'on peut avoir avec les autres peuples, avec les autres religions, c'est en lui, c'est une fois qu'on connaît Jésus. C'est pour ça que nous, les musulmans qui connaissent Jésus, on a la réconciliation. Je me souviens, notre ami Taïsir Saada, quand il a donné son témoignage, il a reçu le Seigneur il y a 30 ans aux États-Unis. C'était un terroriste, c'était un sniper pour Arafat. Et il s'est échappé, sa tête était mise à prise, il s'est échappé, il est arrivé aux États-Unis et il a rencontré un homme américain qui lui a témoigné de l'amour de Dieu. Il a été tellement envahi de l'amour de Dieu qu'il a reçu Jésus, qu'il a reçu le Seigneur. Et quand il a reçu le Seigneur, le Saint-Esprit est venu sur lui, il a commencé à bénir Israël. Et tout d'un coup, il s'est retenu. Lui, il a été éduqué en Arabie Saoudite, un musulman. Et tout d'un coup, il se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de bénir Israël. Et le Seigneur lui a dit, eh bien, tu m'appartiens, et maintenant tu bénis ce que je bénis, et tu maudiras ce que je maudis. Et il a reçu cet amour surnaturel pour Israël, et maintenant, c'est vraiment fantastique. Alors, la réconciliation étant Yeshua, il est en Jésus. L'unité est en Jésus. Il y a deux esprits, il y a l'esprit du monde et l'esprit du royaume. Il y a une différence. Et donc quand on regarde un peu sur ce nouveau Moyen-Orient, ça va, tu le vois là? Hein? Problème, bon. Alors, psaume 137, on va commencer avec le psaume 137, voilà. Alors, le psaume 137, versets 5 à 6. « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, ou se dessèche, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, et ne mets Jérusalem au-dessus de toutes mes joies. » Voilà. Non, mais c'était avant. « Si je ne mets Jérusalem au-dessus de toutes mes joies. » Ici, il y a quelque chose qui est déclaré dans tous les mariages juifs, quand l'époux et l'épouse se réunissent sous la choupa, ce qu'on appelle la choupa, comment on dit en français là, le dé, c'est ça, hein, sous la choupa. Alors l'homme casse le verre et ils disent Imishkacher Yerushalayim, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie et ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi et ne mets Jérusalem au-dessus de toutes mes joies. Alors, le mariage, c'est le jour le plus joyeux d'une personne, oui. Mais même pendant le jour du mariage, on se souvient de Jérusalem. Et il y a deux choses qui est dit. Si je ne me souviens pas de Jérusalem, deux choses vont m'arriver. Ma droite se desséchera et ma langue s'attachera à mon palais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, croyants, nous savons que Dieu est l'Éternel des armées et que son QG, hein, son campement général se trouve à Jérusalem. C'est là où il est venu et c'est là où il reviendra. Et tout, en fait, influence le monde par ce qui se passe à Jérusalem. Si je t'oublie, Jérusalem. Je me souviens, dans une conférence, il y avait un très beau vase de fleurs, et la personne disait, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces fleurs? À tout le monde, oh, elles sont belles, elles sont rouges, elles sont... Et la personne a dit, je vais vous dire exactement la chose la plus importante de ces fleurs. Elles sont mortes. Elles étaient coupées et mises dans un vase. Revenez dans 48 heures. Elles sont mortes. On les voit pas mortes, mais elles sont déjà mortes. Si nous ne sommes pas rattachés à la racine, nous sommes morts. La racine, c'est Jésus. Mais Jésus, à travers ses promesses, qui commencent à partir du livre de la Genèse, il n'y a pas de différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Toutes les promesses de l'Ancien Testament sont oui et amen. Et je crois que c'est important de comprendre ici que si on oublie nos racines qui commencent à Jérusalem, eh bien, deux choses vont vous arriver. La droite va se dessécher. La droite, c'est quoi? c'est l'autorité. Jésus est assis à la droite du Père, c'est l'autorité. Si nous oublions nos racines, le salut vient des Juifs, hein, Jésus le dit dans Jean chapitre 4, à la Samaritaine. Si nous oublions nos racines qui ont commencé à Jérusalem et vont se terminer à Jérusalem, le plan de Dieu, c'est vous serez mes témoins de Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ensuite, le Seigneur revient à Jérusalem, mettre ses pieds sur le mont des Oliviers. Si nous oublions cette dimension internationale et stratégique... Israël, Jérusalem, au centre, au plus grand sujet de nos joies, c'est notre autorité va se dessécher. Et je ne parle pas de l'autorité de l'Église dans l'Église. Je parle de l'autorité de l'Église. Pourquoi les gens nous voient comme une secte? Parce qu'on a, on s'est coupé de nos racines. On n'a plus de tradition ni de culture. On s'est inventé des nouvelles traditions. On ne fête plus les fêtes de l'Éternel, alors on va fêter Noël. Oui, c'est bien. Ça, c'est sûr. Mais, utilisez Noël pour apporter l'Évangile. C'est le seul moment dans l'année où vous pouvez le faire. Il faut évangéliser à Noël. Votre seule culture, nos ancêtres, les chrétiens d'avant, nous ont volé. Et maintenant, il faut les retrouver. Et ici, en comprenant que notre... On le fait pas, on sera considéré comme une secte. On va être rejeté. Oh, vous êtes, oui, c'est sur le côté là, un petit groupe. Alors qu'on n'est pas un petit groupe, on est la foi la plus grande dans le monde. Dans le monde, les gens qui croient comme nous en Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est la religion la plus grande dans le monde. C'est très important de savoir ça. Mais souvent on se sent en petit groupe, isolé. C'est souvent Satan qui nous divise pour régner. Alors que si on se mettait ensemble, franchement, ce serait beaucoup plus fort. Si on arrivait à trouver l'unité, et c'est pour cela que Jésus a prié dans Jean chapitre 17, qu'il soit un, comme moi et le Père nous sommes un. Et c'est plus le moment maintenant de se créer des autres dénominations et des groupes. Moi, j'appartiens à celui-là ici. Moi, je suis... Non, c'est fini tout ça. C'est fini, nous sommes en guerre. Il faut faire un gouvernement d'unité nationale. Chrétien. Tout le monde ensemble. Baptiste, pentecôtiste, frère large, étroit, lourd. Et nos frères catholiques aussi, qui aiment Jésus. Très important, on n'est plus à l'époque où on peut... Montre-moi ta théologie, je vais te dire si je peux t'inviter chez moi. Non, c'est fini ça. On réglera les comptes en haut avec la théologie. Jésus connaît les pourtours de son corps. C'est lui seul. Nous avons une guerre. Notre guerre n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances mauvaise, satanique, spirituelle. Et il faut s'unir. Il faut prier ensemble. Il faut se tenir dans la parole de Dieu. Et donc, cette autorité qui se retire parce qu'on a oublié les racines. Et la deuxième chose, c'est « ma langue s'attache à mon palais ». Incroyable de voir le nombre de personnes qui ont du mal à partager l'Évangile. Oui, ils sont nés de nouveau, sauvés, mais on a du mal à expliquer notre foi.
Je peux pas t'expliquer. Écoute, viens à l'assemblée. Il y a un évangéliste professionnel là qui va t'expliquer. Alors on l'amène là à la réunion. Et cet évangéliste, eh ben, il dit exactement la même chose que ce que vous pouvez dire dans votre salon. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque. Vous pouvez l'annoncer ça. Pourquoi la langue est attachée au palais? Pourquoi la langue est attachée au palais? Parce que les racines doivent puiser plus profondément. On doit être dans la parole de Dieu. Chacun d'entre nous est appelé à être un évangéliste. On n'a pas tous le don d'évangélisme, mais on est appelé à témoigner. Nous sommes tous des témoins. Vous savez, le mot témoin en grec, c'est martyr. Attention, hein. C'est peut-être pour ça qu'on... Hein, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va rigoler de moi si je lui dis que je... Mais on s'en fout, ça, on est en guerre. C'est une question de vie et de mort. Et si on est en guerre, il faut être protégé par les armes de l'esprit. Éphésiens chapitre 6, vous vous souvenez? La ceinture de... La cuirasse de... Le casque du... Les chaussures... Celle de quoi? De la bonne nouvelle. Voilà. Ça fait partie aussi de notre armure, de témoigner. Pour être protégé aux pieds. Les pieds, c'est ce qui touche le monde. Retire tes sandales, mais chausse-toi des chaussures de la bonne nouvelle, du zèle de la bonne nouvelle. Le bouclier de la foi est... Voilà. Bon, vous connaissez votre texte. C'est bien, vous avez déjà passé la théorie. Maintenant, allons-y. Allons-y. Voilà. Psaume 122. Demandez la paix de Jérusalem, qu'ils vivent paisiblement ceux qui t'aiment. On est appelé à demander. En hébreu, sha'alou. C'est-à-dire, demander des nouvelles. Là, quand je vois mes cousines, là, je dis, mais comment ça va alors, la famille? Comment il va Jean-Luc? Ça va mieux, là? On peut prier pour lui, là? C'est ça, je demande la paix de Jérusalem. Je demande, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous sommes, nous aussi, en tant que croyants, impliqués dans ce qui se passe au quartier général de Jésus? Le quartier général qu'il a quitté il y a 2000 ans et qu'il va rejoindre bientôt. Est-ce qu'on se fait du souci sur Jérusalem? Comment ils vivent là-bas? Qu'est-ce qui se passe sur le mont du Temple? On doit être dans la prière, dans l'action. Jérusalem doit être au centre de nos joies, parce que c'est un enjeu stratégique. Quand Jésus revient à Jérusalem, et on sait, il est sur le retour déjà, il est déjà au Moyen-Orient. Tout ce que vous entendez, ce printemps arabe, etc., c'est pour révéler toute chose qui est encore cachée. Maintenant, finalement, les musulmans voient leur vraie religion. Les gens qui font les massacres sont des gens qui ont lu le Coran et qui l'adaptent à la lettre. Est-ce que vous avez lu le Coran? Moi, je l'ai avec moi. Je l'ai repris, je l'avais lu il y a très longtemps. Maintenant, je l'ai repris, il est avec moi, je l'étudie. Et c'est incroyable que le Coran dit de tuer les juifs, les chrétiens, les mécréants, les athées. Eux, ils font simplement de mettre à la lettre. Et les musulmans modérés, ce sont eux qui vivent par la tradition. Mais ils n'ont pas lu les textes vraiment. Et c'est important de nous de savoir qu'il n'y a aucune relation entre le Dieu de l'islam et notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est très important de ne pas rentrer dans la sémantique. Ah oui, mais eux, ils croient en Dieu. Ah oui, mais eux aussi. Non. On peut appeler Dieu... Ça peut être un Dieu, ça. Pour des musiciens, ça peut être un Dieu, un microphone. Il faut faire très attention de ne pas rentrer dans la sémantique. Avant d'être croyant en Yeshua, j'étais panthéiste. Pour moi, toutes les religions menaient à Jésus. Et le seul livre que je n'avais pas lu spirituel, c'était le Nouveau Testament. Vous voyez comment Satan il a. Il n'y a aucune relation entre le Dieu d'Abraham, Isaac, de Jacob et Allah. Et c'est très important de savoir comment aussi témoigner à ces musulmans que Dieu aime, qu'il veut sauver. On n'est pas venu là pour les
attaquer, pour se moquer d'eux, pour en faire des caricatures. Ça c'est pas de, pour nous ça. On n'est pas des charlots. On respecte chaque personne. On prie pour eux et on les bénit. Mais on amène la vérité. Tu connaîtras la vérité te libérera. Et ça, c'est important de demander la paix de Jérusalem. Qu'ils vivent paisiblement ceux qui t'aiment. Et regardez dans ce verset de Ézéchiel. Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture qui se tient sur la brèche, Peretz, devant moi, en faveur du pays. Dieu appelle son Église à se tenir sur la brèche en faveur d'Israël. Et je sais qu'il y a ici parmi vous des intercesseurs qui se tiennent sur la brèche pour Israël. C'est l'appel de Dieu. Si on se tient sur la brèche pour Israël, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Avertir quoi ? Tout commence à Jérusalem. Quand on est une sentinelle à Jérusalem, on prévoit déjà le danger qui va se passer en Europe et dans le monde entier. Et ce qui s'est passé, les événements qui se sont passés, ils ont déjà été prophétisés, ils ont déjà été annoncés. Je vous l'avais déjà dit. Il y a énormément de personnes qui sont passées, qui ont parlé. Ce qui se passe au Moyen-Orient va devenir international parce que c'est le même esprit. C'est ce même esprit, l'esprit de l'Antéchrist qui dit « Dieu n'a pas de fils ». Et quand vous montez à l'esplanade des mosquées, quand vous rentrez dans la mosquée de Omar, ce dôme doré, à l'intérieur il est mis « Allah est Dieu et il n'a pas de fils ». Le pur blasphème de l'Antéchrist. Et on sait que l'Antéchrist viendra dans le temple. Nous savons que l'islam est une religion de l'Antéchrist. Toute religion monophysite qui rejette que Dieu a un fils vient de l'Antéchrist. Et on sait que cet esprit de l'Antéchrist n'est pas seulement au Moyen-Orient, il est dans le monde entier. Et Dieu peut utiliser différentes antéchrists. Et nous savons que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Et c'est très important pour nous de nous réveiller. On espère et on prie que le gouvernement français va se réveiller. On ne sait pas, est-ce qu'il va se réveiller ? On ne sait pas. Mais moi, ma prière, c'est est-ce que l'Église va se réveiller ? Est-ce qu'on va finalement voir que la politique de l'autruche, ça ne marche pas ? Ça ne sauve pas des vies ? On ne peut pas s'enfermer dans les ghettos et prétendre que tout va bien à Madame la Marquise. Il faut aller et faire des disciples. Il faut sortir de l'Église. Il faut être investi. Et comme j'ai dit, pas tout seul. Deux par deux, trois par trois. Regardez, vous avez toute une belle équipe là qui est venue là de Corée pour vous aider. Fantastique ça. Alléluia. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Souvent, ce que Dieu fait en Israël et au Moyen-Orient est un signe pour les nations. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe en Israël. Alors, je vais vous montrer une photo là. Regardez. Pour ceux qui étaient là avec nous. C'est la frontière du Golan. La frontière du Golan. Ceux qui étaient avec nous, vous étiez avec nous là sur le Golan. Qui est-ce qui était avec nous sur le Golan? Voilà. Alors, vous vous souvenez? Ce que vous voyez ici, c'est la Syrie. Devant, c'est Israël. La Syrie. Voilà. Et on a été sur le plateau du Golan, on a été visité, on a été sur une montagne qui s'appelle Har Bental, la montagne de Bental, juste en voyant la Syrie. Et qu'est-ce qu'on voit? On va montrer l'autre photo. Alors, la Syrie, on se retrouve à 240 km de Jérusalem, mais 60 km de Damas. Vous voyez, c'est très près, c'est Damas. Et on entend des bruits. Boum, boum, boum. Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Guerre civile. Il y a la guerre civile. Il y a quatre groupes qui se font la guerre entre eux. Ok? Alors, on va passer l'autre photo. C'est Luc Henriste, si vous connaissez Luc. Et Luc, on rencontre un soldat avec une casquette bleue, c'est l'UNIFIL. L'UNIFIL, c'est les Nations Unies. Et il est en train de regarder avec des jumelles en Syrie. Il est basé en Israël, sur c'est un bunker israélien, et il regarde en Syrie. Et tout de suite, nous, on est curieux, on lui pose des questions. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre travail? Je suis observateur. Qu'est-ce que vous observez? J'observe la cessation de la J'observe la cessation du processus de paix de 1974. 1974, qui se souvient de ce qui se passait en 1974? Et il note tout ce qui se passe. Il regarde avec ses jumelles et on lui dit, mais qu'est-ce que tu notes là? Eh bien, c'est un no man's land, cette vallée-là est un no man's land, c'est-à-dire personne ne peut entrer ni sortir, ni les Israéliens, ni les Syriens. C'était une zone neutre. Mais il y a des armées qui sont entrées. Et donc lui, il doit faire un rapport, parce que cette petite bande de terre appartient sur la carte aux Nations Unies. Donc lui, il doit dire, alors on lui pose, mais c'est qui ces armées? Alors tout de suite, lui, il est très clair, c'est Al-Nusra. Al-Nusra, c'est Al-Qaïda du Yémen. Ça vous dit quelque chose? Ah oui. Eh bien, ils sont à nos portes. Ils étaient à votre porte. Ils étaient porte de Vincennes, maintenant ils sont porte du Golan. C'est les mêmes. C'est les mêmes. On a le même ennemi international. Al-Nusra et, plus au nord, le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est un groupe chiite. Al-Nusra, c'est des sunnites. Ils ne s'aiment pas du tout. Ils se battent entre eux. Il faut comprendre, dans l'islam, il y a plusieurs branches qui se combattent les uns contre les autres. Les sunnis contre les chiites. Si vous voulez une histoire de l'islam, on fera ça une autre fois. Hein? Regardez, on va passer encore. Regardez la carte maintenant qui se passe. Alors, c'est une carte qui est en anglais. En bleu, ici, c'est le gouvernement syrien. Tout en bleu, c'est tout ce qu'ils contrôlent maintenant. Ils ont presque tout perdu. Mais ils restent en place. Pourquoi? Parce qu'il a des alliés Assad. Il a les alliés iraniens, Russie et le Hezbollah qui envoie des combattants. Et donc ces combattants du Hezbollah sont ici, vous voyez, à la frontière ici, le bleu au nord du Golan. Voilà. Ici c'est Islamic State Control, c'est le Daesh ou le ISIS, vous voyez. Et eux, ce qu'ils ont fait, quelque chose de très intéressant, ils ont retiré la frontière entre l'Irak et la Syrie. Il n'y a plus de frontière entre l'Irak et la Syrie maintenant. Et il n'y en aura plus. C'est déjà fini. Il n'y aura plus un État syrien et un État irakien qui ont été construits par les Français et les Anglais après la Première Guerre mondiale. Vous vous souvenez, quand l'Empire ottoman turc est tombé, hein, les Ottomans étaient amis des Allemands, ils ont perdu la Première Guerre mondiale, et les Anglais et les Français se sont mis d'accord pour partager cet empire ottoman. Et ce qu'on voit maintenant, c'est les frontières franco-anglaises. Les Français ont dit, moi je prends la Syrie et le Liban, et vous les Anglais, vous prenez l'Irak, le Koweït, etc. Ils se sont partagés, ils ont mis des frontières qui sont superficielles, en fait. Et ce qu'on ne voit, c'est que l'État islamique, le Daesh, le ISIS, là, ceux qui font les... Ils ont retiré déjà la frontière et regardez, ils sont juste, en fait, un peu partout, jusqu'à Mossoul. Ils ont pris Mossoul, la ville kurde de Mossoul. Et regardez, ici, c'est les autres groupes rebelles. Ça, c'est le Al-Nusra, Al-Qaïda, qui sont à Alep et ici. Et les Kurdes. Alors, c'est très important de parler aussi sur les Kurdes et j'en reviendrai bientôt. On va continuer avec notre explication. Ceux qui ont été à Tel Hai, vous avez été à Tel Hai. Tel Hai, c'est dans le nord, en Galilée, un petit village. Quand la frontière entre l'Angleterre et la France a été décidée, toutes les implantations juives d'avant 1948, hein, ça c'était en 1920, étaient sous gouvernement britannique, sauf Tel Hai qui était gouvernement français. Et donc, ce qui s'est passé, il y a eu eh bien, des attentats terroristes où des bédouins arabes cherchaient des soldats français et n'en trouvant pas, ils sont venus rentrer dans ce village et ils ont tué les gens qu'il y avait dans ce village. Et donc on a toute l'historique de Tel Rai. Tel Rai, c'est le signe en fait que souvent les problèmes arrivent non pas par les gens qui vivent sur place, mais les gens de l'extérieur qui amènent une politique qui est complètement... Vous savez, quand ils ont fait la frontière, ils avaient des gros feutres avec des gros crayons et ils ont mis, voilà, ça ce sera la frontière. Au lieu de penser, qu'est-ce qui va se passer vraiment? Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que nous sommes en train de vivre un changement de temps, une ère qui est différente, où on revient en fait aux frontières qu'il y avait dans la Bible, dans la parole de Dieu. L'empire de Babylone, l'empire perse, on revient aux vieilles frontières, non pas de l'Europe. L'Europe, excusez-moi de vous dire, mais l'Europe, c'est plus dans le coup. L'Europe va devenir un continent touristique. C'est le plan de la mondialisation. L'Europe, c'est l'histoire, c'est le tourisme, c'est la nourriture, c'est les beaux monuments. Mais tout se passe maintenant, quand vous regardez bien, ailleurs. Et donc, les puissances européennes ont perdu leur puissance. Et donc, ils lâchent maintenant les frontières. Et qui est-ce qui va reprendre ces frontières? On va revenir, en fait, à la centralité de ce Moyen-Orient qui va être influencé par d'autres puissances. On n'a pas le temps de rentrer dans toute la géopolitique, etc. Regardez, on va continuer un peu. Ésaïe 62. Vous vous souvenez de votre hébreu, non? Allez, on continue. À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que sa justice apparaisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. C'était le thème de notre année. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire et l'on t'appellera d'un nom nouveau défini par l'Éternel lui-même. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera plus abandonné. Regardez la relation entre verset 1 et verset 2. À cause de Sion, je ne me tairai pas. Ça c'est... hein. Et ensuite, les nations verront ta justice. Comment les nations verront la justice? Quand ce que Dieu va faire à Sion, où il va se révéler comme l'aurore. Vous voyez l'enjeu stratégique. L'enjeu stratégique est souvent dans une guerre. Il y a un enjeu stratégique. Sur quoi est-ce qu'on va se concentrer? Deuxième guerre mondiale, il y avait deux enjeux stratégiques. Stalingrad et le débarquement de Normandie, et aussi El Alamein. Pour les Juifs, c'était El Alamein, 1942, en Égypte, où les Allemands ont été arrêtés parce qu'ils voulaient rentrer en Palestine en 1942 déjà. Il y a des guerres stratégiques qui ont empêché les Allemands de gagner. Et il y a des guerres spirituelles stratégiques qui vont empêcher l'esprit de ce monde, Satan, de pouvoir envahir le monde entier. C'est à Jérusalem. C'est pour ça de prier pour le salut du peuple d'Israël, de prier pour la paix de Jérusalem est important pour toutes les églises du monde entier. Et c'est pour ça que, non pas seulement moi, mais beaucoup d'autres Israéliens, on quitte notre maison et notre ville et notre ministère pour aller vous dire aux nations, priez. Priez, parce que l'enjeu, si on a la victoire à Jérusalem, on aura la victoire chez vous. Vous aurez la victoire chez vous. Si on coupe la tête de l'ennemi, alors il ne pourra pas réagir partout. Et un des enjeux qu'il y avait, on va continuer un petit peu là. Regarde, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux de jour comme de nuit. Vous qui êtes chargés de la rappeler à l'Éternel, ne vous accordez aucun répit. C'est une exhortation. C'est une exhortation pour nous tous. Ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et fasse d'elle un sujet de louange sur toute la terre. Alors je vais vous poser une question. Est-ce que Jérusalem est maintenant un sujet de louange pour toute la terre? Non. Non. Jérusalem n'est pas un sujet de louange pour toute la terre. Au contraire, Jérusalem est une pierre de discorde. Jérusalem est toujours coupable. Qu'est-ce qui se passe dans le monde entier? C'est toujours la faute aux Juifs, aux Israéliens, à Jérusalem. Il y a toujours, si on fait le bien ou le moins bien, c'est toujours Israël qui est coupable. Mais il y a un temps où Jérusalem sera un sujet de louange sur toute la terre. Pour le moment, c'est le sujet de louange, j'espère, de l'Église ou d'une partie de l'Église réveillée. Je dis l'Église réveillée. Mais ça va devenir un sujet de louange pour toute la terre, parce que quand le Saint-Esprit sera déversé sur les Juifs, le peuple d'Israël, tout Israël sera sauvé, les nations vont voir, mais ouais, ces Israéliens, ils ne croyaient pas en Jésus, ça fait 2000 ans qu'ils ne croyaient pas en Jésus, et maintenant tout d'un coup ils se tournent vers Jésus, mais qu'est-ce qui se passe alors? Et ça va être la résurrection d'entre les morts pour toutes les nations, qu'ils vont voir que Jésus est vivant. Parce qu'il y a une promesse sur Israël. Et c'est pour ça, c'est important de prier pour cette promesse, cette révélation, ce voile d'être retiré, et que les Juifs rentrent dans leur héritage et reconnaissent Jésus comme leur Messie, et que les musulmans et les arabes chrétiens puissent aussi voir Jésus, eux qui sont là aussi, sur place. Les fils de Abraham, ensemble, Ismaël et Isaac, qui deviennent unis en Jésus. On va continuer. Continuez, voilà. On continue. On n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais aller assez vite. Voilà, on va continuer. Allez. Encore. Voilà, alors on continue. Maintenant, je voudrais parler de Ésaïe 19. Est-ce que vous avez lu déjà Ésaïe 19 ? Je vous recommande la lecture. Ésaïe 19 parle surtout de l'Égypte. L'Égypte qui va passer par des temps spéciaux. Vous savez, il y a 3 ans, quand il y a eu les frères musulmans qui sont venus au pouvoir, tout le monde a dit, ça y est, l'Égypte, maintenant, c'est devenu complètement islamisé, c'est fini. Mais Dieu avait une autre promesse pour l'Égypte. Dieu aime l'Égypte. C'est très important de comprendre. L'Égypte est une place spéciale dans le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Égypte a toujours eu un lieu de protection pour le peuple d'Israël. Et Dieu a une mémoire. Vous savez, si Dieu a créé les éléphants, il a plus de mémoire que les éléphants. Il a une mémoire et il se souvient que l'Égypte a toujours été un lieu de recueil. Même notre Seigneur, c'est les 2 premières années de sa vie, il s'est réfugié où? En Égypte. Et regardez dans ce texte, ok? Je dresserai l'Égyptien contre l'Égyptien, guerre civile. On se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville. L'Égypte perdra l'esprit, j'anéantirai ses projets. On aura beau consulter les faux dieux, les morts, ceux qui invoquent les esprits et les spirites. Je livrerai l'Égypte entre les mains de maître. On va continuer un peu. Je vous encourage à lire tout ce texte. Hein. On va continuer. Voilà. L'Éternel a déversé au milieu d'eux un esprit de vertige. Ils égarent les Égyptiens dans tout ce qu'ils font. Vous pouvez étudier tout ce qui se passe sur l'Égypte. Voilà. Il y aura 5 villes en Égypte qui parleront la langue de Canaan, qui prêteront serment par l'Éternel, le maître de l'univers. Voilà, on continue. En ce jour-là, l'Éternel sera connu des Égyptiens. Les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Ils le serviront avec des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Et ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Ils se convertiront à lui et il répondra à leurs prières et les guérira. Vous voyez une promesse sur l'Égypte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un fardeau pour l'Égypte là? Je vais vous encourager. Parce qu'il faut continuer à prier pour l'Égypte. Il y a une promesse pour l'Égypte. Et il y a des millions de chrétiens coptes en Égypte. Et quand ils ont été persécutés par les frères musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont réfugiés dans la prière, ils ont crié à Dieu. Et si vous regardez, je vous encourage à regarder dans YouTube les louanges qu'ils ont dans les cavernes et tout ça, des milliers de personnes qui louent le Seigneur, c'est fantastique. Et qu'est-ce qu'ils se sont fait? Ils se sont alliés avec les évangéliques. Maintenant, les coptes et les évangéliques, vous savez? Ouais, très bien.
Hein? Alors vous êtes au courant. C'est bien que vous soyez au courant. Moi je sais pas. Hein? Les coptes et les évangéliques ensemble, ils louent le Seigneur. Avant ça se faisait pas. Avant les évangéliques étaient persécutés par les coptes, les églises traditionnelles. Maintenant ils ont reconnu. Bon, on peut plus se battre entre nous. On a un ennemi commun. Et c'est dans la louange. Et des gens viennent au Seigneur. Il y a un réveil en Égypte. Le nouveau président, le général Sissi, qui était le chef des armées, qui est allié d'Israël. C'est grâce à lui qu'il y a eu un cessez-le-feu avec le Hamas. Et il a fermé les frontières. Il a bouché tous les tunnels avec le Hamas. Et ils ont condamné, c'était aux informations hier, ils ont condamné le Hamas comme une organisation terroriste. Ce sont les meilleurs alliés d'Israël, c'est l'Égypte maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce revers de Kazakh ? C'est la prière, c'est l'intercession, j'en suis convaincu. Des gens ont crié à Dieu, des milliers de personnes ont crié à Dieu et ont demandé au Seigneur. Seigneur, change, agis selon ta parole. Des gens qui avaient reçu déjà Ésaïe 19 et qui ont prié. On va continuer. En ce jour-là, il y aura une route entre l'Égypte et la Syrie. La Syrie, c'est au nord. Vous vous souvenez, le royaume d'Assyrie, hein, c'est au nord. C'est la Syrie et l'Irak. Le royaume d'Assyrie, Ninive, la plaine de Ninive, qui se trouve au nord de l'Irak. Hein. Les Assyriens se rendront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens serviront l'Éternel avec les Assyriens. On voit qu'il y aura deux peuples. Un au nord d'Israël, un au sud d'Israël, qui vont servir le Seigneur, qui vont rentrer dans l'Évangile. Et ce jour-là, Israël sera troisième. Alors en hébreu, c'est mieux, c'est Shlishia. Ça veut dire un triumvirat, une organisation en trois parties, trois têtes. C'est pas la troisième en dernier, c'est trois têtes ensemble, unies. L'Égypte, la Syrie et Israël. Et sera troisième avec l'Égypte et la Syrie et à être une bénédiction pour toute la terre. La bénédiction va venir du Moyen-Orient. Ce que vous voyez avec vos yeux, c'est temporaire. Il va y avoir quelque chose qui va se passer au Moyen-Orient. Et l'Éternel, le maître de l'univers, les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, très intéressant, la Syrie que j'ai créée de mes mains, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Alors la Syrie, l'œuvre de mes mains, c'est très intéressant, et c'est tout un sujet à étudier, et ça fait des mois qu'on étudie ce sujet, parce qu'on le traite beaucoup. L'œuvre des mains, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en Assyrie? Les Assyriens étaient les plus cruels ennemis d'Israël. Les Assyriens sont venus et ont pris le royaume du Nord, les 10 tribus, et les ont quoi? Ils les ont transférés, déportés. Ils ont déporté toutes ces tribus israéliennes, d'Israël, les enfants d'Israël, les ont mis dans 5 endroits différents, et les endroits sont marqués. C'est en Irak, en Iran, sur la mer Caspienne, en Syrie, 5 endroits différents, vous pouvez chercher, vous allez voir. Et à la place, ils ont ramené des autres peuples de l'Est et ils les ont mis en Israël, ce qu'on a appelé les Samaritains. Alors, l'œuvre de mes mains, c'est quoi? C'est qu'en Assyrie, vous savez, les 10 tribus perdues, elles sont perdues pour les êtres humains, mais elles ne sont pas perdues pour Dieu. Dieu connaît. Et maintenant, avec l'ADN, on peut voir d'où nous venons, quelles sont nos racines. En Assyrie, il y a énormément de descendants d'Israël, des 10 tribus. Et les Assyriens ont été évangélisés. Le Seigneur a envoyé Jonas. Vous vous souvenez ce fameux Jonas? Il a été envoyé à Ninive, la capitale de la Syrie, et il ne voulait pas y aller. Pourquoi il ne voulait pas y aller? Il savait qu'ils allaient se repentir. C'était des ennemis. Pourquoi les ennemis doivent se repentir? Il n'avait pas le cœur du Seigneur. Mais le Seigneur l'a envoyé quand même. Vous vous souvenez l'histoire du poisson? Il va à Ninive, il annonce l'évangile, et qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous dans la repentance. Ninive entend l'évangile. Les églises historiques chaldéennes, et araméique, qui parlent le langage, l'araméique, le langage de Jésus. Les premières églises étaient les premiers croyants dans l'Est, en Assyrie et en Irak. 2000 ans de tradition, très ouvert à l'évangile, mais elles sont devenues des églises historiques, des églises traditionnelles qui ont perdu leur vie spirituelle. Et nous, moi j'ai un très bon ami, il a prêché chez nous là samedi, il a grandi en Israël, il habite à Beyrouth et il travaille beaucoup en Irak et en Syrie. Et là, il a été justement à Erbil. Erbil, c'est une ville en Irak où les Kurdes sont toujours en position ici. Et il expliquait ce qui s'est passé avec ces chrétiens qui habitaient à Mossoul, un peu dans toutes les villes. Il y avait toutes des villes en Irak et en Syrie. Et dans la nuit, on frappe à la porte. Les gens sont déjà devant leur télé, en pyjama, etc. Ils ouvrent, et c'est les islamiques qui rentrent et qui disent « Sortez maintenant, sortez de votre maison, tout de suite. » Alors ceux qui résistent, tués. Ils sont tous sortis, des milliers de personnes, dans le froid. Il y en a qui ont réussi à prendre une couverture en vitesse, il y en a qui avaient seulement leur téléphone. Ils ont marché. Marché. Ils sont arrivés jusqu'à la ville de Erbil. Ils ont tout perdu. Leur maison, tout. La maison pillée, brûlée, et sans vous parler de tout ce qui s'est passé aussi, des horreurs qui s'est passé dans les familles. Et quand mon ami est allé à Erbil, il a rencontré ses réfugiés, il leur a dit « Mais je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. Vous avez tout perdu. » Et ils l'ont regardé, ils lui ont dit « Ne sois pas désolé, on a trouvé Jésus. » On a trouvé Jésus. Et il lui expliquait que c'était des chrétiens traditionnels, mais qui n'avaient pas de relation personnelle avec Jésus, et que maintenant, ils ont reçu la vie éternelle à travers le salut en Jésus. Les églises là-bas sont pleines. Il y a un réveil. Et tous les gens sont touchés par l'évangile. Et c'est ça ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. Le réveil et la persécution ensemble. Le réveil et la persécution. Il y avait la persécution en Égypte, il y a maintenant le réveil parmi les chrétiens. Et en Assyrie maintenant, il y a la persécution, mais le réveil. Et ma question c'est, est-ce qu'en Europe aussi, maintenant, il y aura aussi la persécution qui amènera le réveil, si la persécution est le seul moyen pour nous de réveiller? J'espère pas, mais il faut être aussi réaliste. Souvent, on a besoin d'être... Et dans cette ville ici, de Erbil, la Syrie, cet empire assyrien qui va être renouvelé, va être aussi le sujet d'un autre peuple qu'on appelle les Kurdes. Les Kurdes, ce sont les anciens Mèdes. Vous vous souvenez, les Mèdes et les Perses, ce sont eux qui ont fait tomber Babylone en 612. Non, 612, c'était Ninive. Hein, en Babylone, qui est tombée aussi. On va regarder un peu. Je vais vous montrer une autre... Voilà. Je vais vous montrer... Point d'interrogation, hein, le nouveau Moyen-Orient demain. Si Dieu établit un pays qui va apporter un soutien à Israël avec l'Égypte, c'est ce qu'on appelle le Kurdistan. 35 millions d'habitants. Imaginez-vous, 35 millions d'habitants qui sont séparés entre les Turcs, la Turquie, l'Iran, la Syrie, l'Irak. Maintenant que les frontières sont parties, ces Kurdes commencent à se mettre ensemble. Et ils revendiquent une indépendance que ni les Français, ni les Anglais pendant la Première Guerre mondiale, ni les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, ni la guerre du Golfe, personne ne leur a donné. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le pétrole. Mais maintenant, les temps changent. Les Kurdes sont les plus grands alliés d'Israël. J'ai des amis qui travaillaient au Kurdistan, missionnaires, et qui disaient, les Kurdes, leur exemple, c'est Israël. Les femmes font leur service militaire aussi. Les Peshmerga. Il y a aussi des femmes qui combattent là-bas. Et ce sont des musulmans, mais ils sont laïcs. Et ils sont très ouverts à l'évangile. Ils sont très ouverts à l'évangile. Et bon, j'ouvre une parenthèse parce que je ne vais pas parler. Je vais parler mon idée, quoi, je veux dire. Hein, d'accord ? Il va venir un temps où le Seigneur va apporter un réveil dans ce pays d'Assyrie et d'Irak, où les Kurdes musulmans laïcs vont venir à Jésus. C'est Mède. Parce que vous vous souvenez, le royaume des Mèdes et des Perses, c'est le royaume qui a encore dans la mémoire des promesses de l'Éternel, c'est eux qui ont renvoyé, après la déportation de Babylone, les Israélites. Il y a une bénédiction à la clé pour ces personnes, pour ces nations, comme les Égyptiens. Et donc, il va y avoir un État qui va être qui va protéger Israël, qui va se tenir avec Israël, et Israël ne sera pas seul dans le Moyen-Orient. C'est ça qui est important de comprendre, parce que pour amener l'évangile aux musulmans, il faut qu'il y ait des ex-musulmans. Comprenez ce que je dis ? Des gens qui connaissent la culture de l'intérieur. Et c'est pour ça que je dis, si en France, si vous avez des maghrébins ex-musulmans, encouragez-les, bénissez-les, investissez dans leur ministère, investissez, parce que c'est eux qui ont une porte peut-être dans les cœurs, peut-être plus que nous, mais nous aussi on peut. Il suffit d'avoir l'amour. L'amour, c'est-à-dire être délivré de la peur. Aimer. Et c'est sur cette carte du Moyen-Orient où on verra la Syrie, l'œuvre de mes mains, au nord, Israël au milieu et l'Égypte au sud, d'avoir un nouveau Moyen-Orient. C'est très important de prier pour ce Moyen-Orient. Dans ce pays, il y a des milliers de terroristes qui sont formés en Europe et qui vont revenir. Ils vont revenir. Ils vont revenir en France, ils vont revenir en Belgique, ils vont revenir en Allemagne. Et ça, c'est l'enjeu. Ça, ce sont les personnes qu'il faut toucher avec l'évangile. Pourquoi ces personnes sont prêtes à mourir pour un mensonge ? Ils croient qu'ils vont aller au paradis quand ils tuent des personnes, alors que le Seigneur est très clair là-dessus. Celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Jésus a dit, je suis la résurrection et la mort. C'est quand Jésus... La résurrection et la vie, pardon. La résurrection et la vie. Mort et ressuscité, c'est ça que je voulais dire. Mort et ressuscité, la résurrection et la vie. Et ces personnes, ces jeunes, ils ont besoin de l'évangile. Ils ont besoin d'être sauvés. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager pour prier pour leur salut ? Je vous donne des défis là. Si vous aimez Israël, s'il vous plaît, priez pour nos ennemis, qu'ils soient sauvés, qu'ils deviennent des frères. Et si moi je vous aime, je vais prier pour ces terroristes qui sont en train de préparer des attentats, pour que eux aussi ils soient sauvés. Nous avons le même combat, le combat du royaume. On va prier peut-être, on va se mettre en temps à la prière devant le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es le Dieu des nations. Seigneur, nous avons fait un peu d'histoire, de géographie, de politique, mais la chose la plus importante, c'est de savoir que tu es au-dessus de toutes les nations, que ton royaume est un royaume éternel. Et que, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, dans le livre de Daniel, au chapitre 2,
que tous ces royaumes, Babylone, la Syrie, la Perse, l'Empire romain, tous ces royaumes vont tomber quand la pierre qui se détachera de cette montagne, Jésus, Yeshua, va détruire le prince de ce monde. Merci qu'en ton nom nous avons la victoire, Seigneur. Et Seigneur, merci qu'en ton nom, Seigneur, tu nous as donné les armes de l'esprit pour nous tenir fermes, Seigneur, dans les temps difficiles. Seigneur, nous voulons prier maintenant pour tous nos ennemis, pour tous ceux qui nous persécutent, pour tous ceux qui préparent des attentats terroristes, que ce soit en Israël, en France, dans toutes les parties du monde. Seigneur, ils sont aveuglés. Seigneur, nous te demandons ta grâce. Nous te demandons que tu les touches sur le chemin de Damas, Seigneur. Seigneur, comme tu as touché Paul qui voulait tuer les croyants. S'il était terroriste aussi, lui. Seigneur, tu l'as sauvé. Sauve, Seigneur, ces personnes, ces jeunes personnes qui sont dans le trouble, dans la confusion, qui sont tombées dans les mains de l'ennemi, Seigneur. Nous te demandons maintenant, au nom de Yeshua, au nom de Jésus, de te révéler à eux, de les toucher par ta grâce, de mettre sur eux un esprit de repentance, Seigneur. Seigneur, nous te demandons d'agir, Seigneur, parce que tu es celui qui peut changer les cœurs. Tu es celui qui peut faire des meurtriers, tu peux en faire, Seigneur, des apôtres. Et Seigneur, nous te demandons maintenant de travailler dans le cœur de chaque personne. Nous t'amenons tous ces musulmans maintenant, Seigneur, qui sont dans les questions maintenant au sujet de leur propre religion. Ces musulmans qui sont en France, Seigneur, qui ont besoin de la vérité, qui ont besoin de la parole, qui ont besoin, Seigneur, du témoignage. Envoie, Seigneur, tes évangélistes. Envoie tes prophètes, envoie tes pasteurs. Envoie, Seigneur, ton Église, Seigneur, pour apporter la lumière là où il y a les ténèbres, Seigneur. Et je te demande de fortifier chacun d'entre nous maintenant, Seigneur. Nous avons le même combat, que ce soit en Israël ou en France. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul ennemi et que c'est Satan. Mais toi, tu es victorieux, Seigneur. Toi, tu règnes, Seigneur. Et nous te demandons maintenant, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à rester fidèles jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que tu restaures toutes choses, Seigneur. Et garde-nous d'avoir, Seigneur, peur ou crainte, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à surmonter, Seigneur, toutes les émotions par lesquelles nous passons, Seigneur. Que ce soit la haine ou la peur, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à aimer. Aide-nous, Seigneur, à prier. Aide-nous, Seigneur, à témoigner, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour la façon dont tu sauves aussi au Moyen-Orient, les musulmans, mais aussi les juifs, Seigneur. Et nous voulons te remercier pour la moisson que tu prépares, Seigneur, pour la fin des temps au Moyen-Orient, Seigneur. À toi toute la gloire. Meshem Yeshua Mashiach. Amen. Amen.